Chapitre 4. L'impatience d'être veuf. Chaque roi, chaque homme a ses plaisirs qui, mieux que toute autre chose, révèlent les tendances profondes de sa nature. Louis X montrait peu d'inclination à la chasse, aux joutes, aux passes d'armes, et de façon générale à aucun exercice où il risquait blessure. Il aimait depuis l'enfance la longue paume qui se jouait avec des balles de cuir, mais il s'y essoufflait et échauffait trop vite. Son divertissement préféré consistait à s'installer, un arc en main, dans un jardin fermé et à tirer au vol de fort près des oiseaux, pigeons ou colombes qu'un écuyer laissait l'un après l'autre échapper d'un grand panier d'osier. Profitant de l'allongement du jour, il était occupé à ce délassement cruel dans une petite cour de Vincennes disposée comme un cloître lorsque son oncle et son cousin, en fin d'après-midi, lui amenèrent l'archevêque. L'herbe verte et rase qui couvrait le sol de la cour était souillée de plumes et de sang. Une colombe, clouée par l'aile à une poutre du déambulatoire, continuait de se débattre et criait. D'autres, mieux atteintes, gisaient éparses, leurs pattes minces roidies et crispées. Le hutin poussait une exclamation de joie chaque fois qu'une de ses flèches perçait un oiseau. « Une autre !» lançait-il aussitôt à l'écuyer. Si la flèche, manquant son but, allait s'épointer sur un mur, Louis reprochait alors à l'écuyer d'avoir lâché la colombe au mauvais instant ou du mauvais côté.
« Sire, mon neveu, dit Charles de Valois, vous me paraissez plus habile aujourd'hui que jamais. Mais si vous consentiez à interrompre un instant vos exploits, je pourrais vous entretenir des choses bien graves que je vous ai annoncées.
Quoi, qu'est-ce encore ? Dit le hutin avec impatience.
Il avait le front moite et les pommettes rouges. Il aperçut l'archevêque et fit signe à l'écuyer de s'éloigner.
« Alors, monseigneur, dit-il en s'adressant au prélat, est-il vrai que vous m'empêchiez d'avoir un pape ?»«
Hélas, sire, répondit Jean de Marigny, je viens vous faire révélation de certaines choses que je croyais commandées par vous et dont je suis durement peiné d'apprendre qu'elles sont contraires à votre volonté. »
Là-dessus, avec l'air de la meilleure foi du monde et quelque emphase dans le ton, il rapporta au roi les manœuvres d'Enguerrand pour retarder la réunion du conclave et faire échec à toute candidature, aussi bien celle de Duez que celle d'un cardinal romain.
« Si dur qu'il soit, sire, acheva-t-il, d'avoir à vous découvrir les mauvais actes de mon frère, il m'est plus dur encore de le voir agir contre le bien du royaume en même temps que celui de l'Église, et s'appliquer à trahir tout ensemble son seigneur sur la terre et le seigneur du ciel. Je ne le tiens plus pour étant de ma famille, puisque quand on est homme de mon état, on a de vraies familles qu'en Dieu et en son roi.
Le bougre arriverait pour un peu à vous tirer les larmes, pensait Robert d'Artois. Vraiment, ce coquin-là sait se servir de sa langue.
Une colombe oubliée s'était posée sur la toiture de la galerie. Le hutin tira une flèche qui, traversant l'oiseau, fit bouger les tuiles. Puis, soudain, s'emportant, il cria.
« À quoi donc cela me sert-il, ce que vous me chantez là ? Il est bien temps de dénoncer le mal quand il est accompli. Fuyez, messire archevêque, car je me courrousse !»
Robert d'Artois entraîna l'archevêque, dont la besogne était terminée. Valois resta seul avec le roi.
« Me voici en belle posture à présent, continuait celui-ci. Enguerrand m'a trompé, soit, et vous triomphez. Mais cela m'avance-t-il, moi, que vous triomphiez ? Nous sommes au milieu d'avril, l'été s'approche. Vous vous rappelez, mon oncle, les conditions de Madame de Hongrie ? Avant l'été, d'ici à 8 semaines, m'aurez-vous fait un pape ?
Honnêtement, mon neveu, je ne le crois plus possible.
Alors il n'y a point motif à vous faire si gros et tant vous rengorger.
Je vous avais assez conseillé depuis l'hiver de chasser Marigny.
Mais puisque cela ne fut pas, hurla Louis X, le mieux n'est-il pas encore d'employer Marigny ? Je m'en vais l'appeler, le semoncer, le menacer. Il faudra bien qu'il obéisse à la parfum.
Aussi enragé que têtu, le hutin en revenait toujours à Marigny comme à l'unique recours. Il arpentait la cour à grands pas désordonnés, des plumes blanches collées sur ses souliers. En vérité, chacun avait si bien poussé son jeu personnel, le roi, Marigny, Valois, D'Artois, Ptolomeï, les cardinaux, la reine de Naples elle-même, que tout le monde se retrouvait bloqué dans une impasse,
se meurtrissant réciproquement, mais sans plus pouvoir avancer d'un pas. Valois s'en rendait bien compte, comme il se rendait compte aussi qu'il lui fallait, s'il voulait garder l'avantage, fournir à tout prix un moyen d'issue, et le fournir vite.
« Ah, vraiment, mon neveu !» s'écria-t-il. « Quand je pense que j'ai été veuf par deux fois en ma vie et de deux épouses exemplaires, je me dis que c'est bien grande pitié que vous ne le soyez point d'une femme éhontée. »« Certes, certes !» dit Louis. « Si cette gueuse pouvait seulement trépasser !»
Brusquement, il s'arrêta de marcher, regarda Valois, et comprit que celui-ci n'avait pas seulement parlé par boutade ou pour déplorer les injustices du sort.
L'hiver fut froid, les prisons sont mauvaises pour la santé des femmes, reprit Charles de Valois. Et voici longtemps que Marigny ne nous a point informés de l'état de Marguerite. Je m'étonne qu'elle ait pu résister au régime auquel on l'a soumise. Peut-être Marigny, ce serait bien un tour de sa manière, vous cache-t-il qu'elle est près de sa fin? Il conviendrait d'y aller voir.
Ils furent sensibles tous deux au silence qui les environnait. Il est précieux, entre princes, de si bien se comprendre que les paroles cessent d'être nécessaires.
« Vous m'aviez assuré, mon neveu, dit seulement Valois après un moment, que vous me donneriez Marigny le jour que vous auriez un pape.
Je pourrais vous le donner aussi bien, mon oncle, le jour que je serai veuf, répondit le hutin en baissant la voix. Valois passa ses doigts bagués sur ses larges joues couperosées.
« Il faudrait me donner Marigny d'abord, puisqu'il commande toutes les forteresses et empêche qu'on entre à Château-Gaillard. »«
Soit, répondit Louis X, je lève ma main de dessus lui. Vous pourrez dire à votre chancelier de me présenter à signer tous ordres que vous jugerez utiles. »
Ce même soir, après l'heure du souper, Enguerrand de Marigny, enfermé dans son cabinet, rédigeait le mémoire qu'il avait décidé d'adresser au roi pour réclamer, conformément aux nouvelles ordonnances, gage de bataille. En clair, il allait provoquer le comte de Valois en combat singulier et se trouvait ainsi le premier à demander l'application de ses chartes aux seigneurs contre lesquels il avait tant lutté. Ce fut alors qu'on lui annonça Hugues de Bouville, qu'il reçut aussitôt. L'ancien grand chambellan de Philippe le Bel montrait une mine sombre et semblait tiraillé par des sentiments contraires.
« Enguerrand, je suis venu te prévenir, » dit-il en regardant le tapis. « Ne dors point cette nuit chez toi, car on veut t'arrêter, je le sais. »«
M'arrêter ? C'est un mot jeté au vent. Ils n'oseront pas, » répondit Marigny. « Mais qui viendrait m'arrêter, je te le demande ? Alain de Pareil ? Jamais Alain n'accepterait d'exécuter un tel ordre. Il soutiendrait plutôt un siège dans mon hôtel avec ses archers.
Tu as tort de ne point me croire, Enguerrand. Et tu as eu tort aussi, je t'assure, d'agir comme tu l'as fait ces derniers mois. Quand on est aux places où nous sommes, travailler contre le roi, quel que soit le roi, c'est travailler contre soi-même. Et moi aussi, je suis en train de travailler contre le roi en ce moment, pour l'amitié que je te porte, et parce que je voudrais te sauver. »
Le gros homme était sincèrement malheureux. Serviteur loyal du souverain, ami fidèle, dignitaire intègre, respectueux des commandements de Dieu et des lois du royaume, les sentiments qui l'animaient, tous également honnêtes, soudain devenaient inconciliables.
« Ce que je viens t'apprendre, Enguerrand, poursuivit-il, je le sais par Monseigneur de Poitiers, qui, pour l'heure, est ton seul et dernier soutien. » Monseigneur de Poitiers voudrait mettre de l'espace entre toi et les barons. Il a conseillé à son frère de t'envoyer gouverner quelques terres lointaines, Chypre par exemple.
Chypre ? S'écria Marigny.
Me laisser enfermer dans cette île au bout de la mer, alors que j'ai commandé le royaume de France ? Est-ce là qu'on veut m'exiler ? Je continuerai à marcher en maître sur la terre de Paris, ou bien j'y mourrai.
Bouville secoua tristement ses mèches noires et blanches.
Crois-moi, « cette nuit ne dors point chez toi, » répéta-t-il, « et si tu juges ma maison un assez sûr asile, fais comme tu voudras, je t'aurai prévenu. »
Aussitôt Bouville sortit, Enguerrand rejoignit dans leur appartement son épouse et sa belle-sœur Chanteloup pour les mettre au courant. Il avait besoin de parler et de sentir la présence de ses proches. Les deux femmes furent d'avis qu'il fallait partir dans l'instant pour quelqu'une de leurs terres, aux confins normands,
et puis de là, si le danger se précisait, gagner un port et se réfugier auprès du roi d'Angleterre. Mais Enguerrand s'emporta.
« Ne suis-je donc environné, s'écria-t-il, que de femelles et de chapons ?»
Et il s'alla coucher comme les autres soirs. Il caressa son chien favori, se fit déshabiller par son chambellan et le regarda tirer les poids de l'horloge, objet peu répandu encore, même dans les hôtels nobles, et qu'il avait acquis à grand prix. Il tourna un moment dans sa pensée les dernières phrases de son mémoire au roi et les nota. Il s'approcha de la fenêtre, écarta le rideau et contempla les toits de la ville éteinte. Les sergents du guet passaient dans la rue des Fossés Saint-Germain, répétant tous les 20 pas de leur voix machinale.
« C'est le guet. Il est minuit. Dormez en paix !»
Comme toujours, ils étaient en retard d'un quart d'heure sur l'horloge. Enguerrand fut réveillé à l'aube par un grand bruit de bottes dans la cour et de coups frappés aux portes. Un écuyer, tout affolé, vint l'avertir que les archers étaient en bas. Il demanda ses vêtements, s'habilla en hâte et, dans l'antichambre, se heurta à sa femme et à son fils qui accouraient, bouleversés. « Vous aviez raison, Alips, » dit-il à Madame de Marigny en la baisant au front. « Je ne vous ai point assez écouté. Partez dès ce jour ainsi que Louis. Je serai parti avec vous, Enguerrand, mais maintenant je ne saurais m'éloigner du lieu où l'on vous imposera souffrance. » Le roi est mon parrain, dit Louis de Marigny. Je m'en vais aussitôt courir à Vincennes. Ton parrain est une pauvre cervelle et sa couronne lui flotte sur la tête, répondit Marigny avec colère. Puis, comme il faisait sombre dans l'escalier, il cria :
Holà, mes valets ! De la lumière, qu'on m'éclaire !
Et quand ses serviteurs eurent obéi, il fit entre les flambeaux une descente de roi. La cour était houleuse d'hommes d'armes. Dans l'encadrement de la porte, une haute silhouette en cotte de maille se découpait sur le matin gris.
Comment as-tu accepté pareil? Comment as-tu osé?
Dit Marigny en élevant les mains.
Je ne suis pas Alain de pareil, répondit l'officier. Messire de pareil ne commande plus aux archers.
Il s'effaça pour laisser passer un homme en vêtements d'église qui était le chancelier Étienne de Mornay. Comme Nogaret, 8 ans plus tôt, était venu en personne se saisir du grand maître des Templiers, Mornay venait en personne, aujourd'hui, se saisir de l'ancien recteur du royaume.
« Messire Enguerrand, dit-il, je vous prie de me suivre au Louvre, où j'ai ordre de vous enfermer. »
À la même heure, tous les grands légistes bourgeois du règne précédent, Raoul de Presles, Michel de Bourdonnais, Guillaume Dubois, Geoffroy de Briançon, Nicole le Loquetier, Pierre d'Orgemont, étaient arrêtés à leur domicile et conduits en diverses prisons, tandis qu'un détachement était expédié vers Châlons pour y enlever l'évêque Pierre de Latille, l'ami de jeunesse de Philippe le Bel, que celui-ci avait si fort réclamé à son chevet dans ses derniers instants. Avec eux, c'était tout le règne du roi de fer qui entrait en forteresse.